l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
International avec les Échos de la solidarité, une émission spéciale pour laquelle notre animatrice Madeleine Guyot a confié sa place à son cher et tendre Guy Guyot. Bonjour Guy.
Bonjour Hélène.
Alors merci d'être venu là, d'avoir pénétré dans le studio cette fois-ci. Hein. Là vous êtes en général vous êtes un peu à l'extérieur.
Tout à
en
fait.
En train d'écouter si Madeleine dit bien ce
voilà,
qu'elle doit dire.
Voilà et si ça passe bien en direct.
Et voilà. Je salue aussi la présence de Nadine Nguyen, qui est présidente de la Maison internationale des Tiers-Mondes et des Solidarités internationales.
Bonjour.
Bonjour Nadine. Et puis aussi, je salue José Forneroux, qui vous êtes vous-même trésorier de la Maison internationale.
Je veille aux finances de la maison.
Il faut toujours une personne telle que vous.
Merci.
Alors, c'est une émission spéciale, je le disais, car cette Maison des Tiers-Mondes et des Solidarités internationales fête ses 30 ans.
Oui, tout à fait, c'est une longue histoire.
C'est une longue histoire. Alors Guy, vous y étiez déjà il y a 30 ans ?
Oh oui, même avant, puisque en 68, il y a eu déjà un premier travail collectif fait entre plusieurs associations avec la création de SOTIMO, Solidarité Tiers-Monde, où on a travaillé notamment sur la manière dont les problèmes du tiers-monde étaient pris en charge au niveau des ouvrages scolaires. Et c'est l'année 73 où il y a eu à la fois le choc pétrolier, mais aussi le coup d'État de Pinochet au Chili, où l'un d'entre nous s'est retrouvé animateur du conseil du comité d'accueil des réfugiés chiliens, et où on a pensé qu'il était vraiment utile de se regrouper en différentes associations. Nous avions la chance à Montpellier qu'un certain nombre de militants de ces associations étaient aussi impliqués sur le plan professionnel dans les différents organismes de recherche et de développement.
Mmh. La maison était déjà installée là où elle est aujourd'hui, boulevard Louis Blanc.
Non, on a créé le centre de documentation Tiers-Monde en 70. En 77, déjà, nous avions fait la demande avec le nouveau maire de Montpellier, Georges Frêche, qui venait d'être élu en 77, en lui disant qu'on recherchait un lieu pouvant regrouper un certain nombre d'associations, y compris avec un centre de documentation. On pensait même à une salle de cinéma, une cafétéria, etc. Il a fallu, bien sûr, il a été d'accord dès le départ, mais il a fallu 10 ans avant que nous puissions profiter de la fermeture de l'école Victor Duruy et qui a ensuite, après des travaux, pu être aménagée pour nous accueillir en 88-89.
Donc d'abord par un centre de documentation.
Voilà, nous avions pensé, on était à peu près une dizaine d'associations très diversifiées les unes les autres, que le mieux apprendre à mieux se connaître, c'était de créer ensemble un outil qui serait un outil commun au service à la fois du public, mais aussi des différentes associations, ce qui a été donc le centre de documentation Tiers-Monde. On a eu la chance après qu'il puisse y avoir aussi une réflexion d'un certain nombre de centres de documentation Tiers-Monde qui se sont eux-mêmes regroupés dans un réseau, et avec l'arrivée du numérique, ça a été bien sûr facilité, et c'est le réseau RITIMO ce qui permet que tout le travail que nous faisons à Montpellier profite aussi à l'ensemble des centres de documentation en France et vice-versa.
José, vous étiez aussi présent à cette époque?
Alors, je n'étais pas présent à cette époque, mais je voudrais dire que cette initiative est une initiative intéressante et plutôt rare, puisqu'il n'existe en France que trois maisons de ce type-là. La première à Évry, qui a été fondée à peu près dans cette époque-là, je crois que c'était en 83. Et puis celle de Nantes qui a été une dizaine d'années après. Donc trois maisons qui ont le même objectif et dans lesquelles on retrouve RITIMO, on retrouve un peu les mêmes associations. Donc c'est cette idée-là. Alors c'est intéressant qu'il y en ait trois, c'est peut-être un peu dommage qu'il n'y en ait pas davantage.
Voilà. Mais le réseau RITIMO du coup couvre plusieurs autres lieux ou seulement ces trois?
Oui, bien sûr. Hein. Oui, nous avons à la fois un certain nombre de centres de de centres de documentation, c'est toute la France. Et puis, il y avait même eu à l'époque une possibilité de pouvoir se jumeler avec une expérience militante en Algérie, au Maroc, en Algérie. Mais malheureusement, les événements se sont déroulés de telle façon que ça n'a pas pu se faire. Une convention pouvant regrouper directement des centres de documentation de part et d'autre de la Méditerranée.
Alors, voilà, entre 1989-2019, 30 ans, il y a une évolution, il y a eu des grandes étapes dans cette histoire-là, avant d'en arriver au présent avec Nadine tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut, comme ça, marquer des temps forts de ces années-là entre...
Oui, il y a eu des temps forts parce que, bon, l'idée au départ, c'était une idée d'avoir une documentation commune et pleine, mais ensuite sont arrivées l'idée qu'il fallait que le grand public soit un petit peu au courant de ce qui se passe, d'où l'idée de monter des journées. Alors au départ, ça a été une semaine consacrée à faire connaître au grand public ce que nous faisions. Et puis c'est devenu des quinzaines, donc la quinzaine est arrivée en 90, donc disons un an plus tard, et puis ça n'a pas cessé depuis. Mais on retrouve un peu la même démarche partout, hein, c'est-à-dire dans les villes que nous citions tout à l'heure, parce que l'idée c'est que c'est pas quelque chose qui doit rester entre nous, c'est on doit servir des échos près du grand public et sensibiliser. C'est quelque part l'éducation à la citoyenneté, et voilà. Donc c'est un petit peu ça qui me paraît intéressant, et Guy pourra le dire. Il y a eu à plusieurs reprises des grands colloques qui ont été organisés et qui ont vraiment eu un retentissement important.
Oui, tout à fait. C'est notamment le colloque Coopérer autrement en 1992, où on a eu bien sûr le soutien de la ville de Montpellier, mais qui nous a permis d'avoir un partenariat entre la Maison des Tiers-Mondes et le CNEARC, le Centre National d'Études Agronomie des Régions Chaudes, ainsi que le soutien du ministère à l'époque, qui nous a attribué une subvention. Bon, il y a eu un petit problème parce que vu l'ensemble des associations qui participaient, même au-delà de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, qui avaient un regard on ne peut plus critique sur la politique dite de coopération avec les pays du Sud, il y a eu une résolution dénonçant la responsabilité de l'État français dans les achats d'armement par les États africains. Bon, bah là, on a eu un petit peu de friction. Le ministère nous a dit, on va vous supprimer votre subvention. Nous, on a répondu en disant, écoutez, le colloque, il est fait. La résolution, elle est lancée. Vous la supprimez ou pas? Si vous la supprimez, on fera savoir que vous la supprimez. Mmh. Donc, finalement, ils ne nous l'ont pas supprimé.
Oui, je dois dire qu'on a été pendant toute cette période un petit peu le poil à gratter d'un certain nombre de cas, puisque il nous est arrivé à plusieurs reprises d'héberger dans nos locaux des réfugiés aux grandes dames des responsables politiques et qui trouvaient que c'était pas bien. Alors quelquefois on a été puni un peu, mais enfin je crois que c'est notre devoir de citoyen d'être là et dénoncer des choses, et bon, même si notre fonctionnement et bien évidemment orchestré par des subventions publiques, etc. Mais ce n'est pas une raison pour se taire.
Absolument. Oui, Guy, vous vouliez...
Oui, je voulais simplement donner les quelques thèmes très très rapidement et pour lesquels on a eu non seulement le soutien de la ville de Montpellier, y compris des services de la ville, à travers la campagne alimentaire TO2RE, où on intervient au niveau des restaurants scolaires, et là ça se poursuit. Il y a eu en 1997 des assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale, où là c'est le centre de documentation Tiers-Monde a été chargé d'animer le comité de pilotage avec la ville de Montpellier, le Conseil général de l'Hérault, des représentants du ministère de la Coopération, des organismes de recherche, des syndicats et des associations. Au total, 130 participants. Et bon, ça c'est un exemple qui s'ajoute au premier colloque, mais parmi d'autres, et tout au long de ces années, comme le disait José, il y a eu à la fois les quinzaines de solidarité internationale, mais aussi des colloques, ce qui nous a évidemment permis à la fois d'intervenir vis-à-vis des autres partenaires, je pense notamment aux organisations syndicales de salariés, aux organisations de consommateurs, avec la quinzaine du commerce équitable qui se renouvelle chaque année, et aussi une collaboration accrue avec les organismes de recherche et notamment SupAgro et la chaire UNESCO Alimentation, où l'on tient chaque année un stand de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité internationale et du Centre de Documentation.
Donc une présence qui s'est au fur et à mesure
et
bien installée.
Qui se maintient tout au long des années.
Alors Nadine Nuetanois, vous êtes la nouvelle présidente depuis 2017.
Voilà,
alors on a évidemment très très vite parcouru l'histoire, mais c'est aussi la maison, cette maison internationale, accueillir des associations. Et pour une présidente, c'est peut-être aussi une activité qui doit représenter beaucoup de charges.
Ah ben c'est
gérer des associations, c'est pas
gérer, c'est un grand mot. Disons qu'on essaie de faire les choses collectivement, avec plus ou moins de réussite suivant les sujets que l'on traite. Mais bon, à l'heure actuelle, on est 33 associations.
C'est un chiffre plutôt en progression ou plutôt stable?
D'année en année, des fois c'est moins, des fois c'est plus.
Toujours
c'est un petit
autour
peu,
de la trentaine.
Toujours une bonne trentaine, qui sont toutes tournées vers la solidarité internationale, puisque c'est notre raison d'être, et qui traitent des sujets comme la faim dans le monde, comme les problèmes d'eau, etc., la santé, mais aussi du plaidoyer, comme admettons Oxfam, comme admettons le CCFD, le Secours catholique, qui sont très actifs. Dans ces thèmes-là.
Donc finalement, il y a autant de travail qu'il y a 30 ans.
Mais je pense peut-être même plus, parce qu'on rajoute, on rajoute des choses. Là, on se tourne vers la jeunesse, parce que, bon, voilà, 30 ans... On a 30 ans de plus. Moi, j'y étais pas, 30 ans. Mais bon, on est pratiquement dans les mêmes tranches d'âge. Donc, c'est sûr qu'il faut amener un petit peu des têtes blondes ou brunes ou châtains, et puis mettre un petit peu à l'arrière les cheveux gris, si on veut.
Donc, vous constatez un renouvellement du conseil d'administration?
Du conseil d'administration, oui, un petit peu, mais on essaie surtout. Là, on va lancer, déjà l'an dernier, on l'avait initié, un pôle jeune. Un pôle de réflexion de la jeunesse sur ce que c'est la solidarité internationale.
Donc des jeunes qui se réunissent
qui vont se réunir quand ils veulent, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes possibilités que nous, et qui vont donc essayer de trouver des choses nouvelles. Et déjà pour ces 30 ans, là, on a fait un pas en avant, puisqu'on a organisé ces 30 ans avec l'aide des étudiants de la Business School de Montpellier, qui est l'école de commerce. Et ces 6 jeunes qui ont travaillé avec nous là-dessus, et ils se donnent du mal. J'espère qu'ils seront récompensés par un public nombreux.
On va voir ça tout à fait en détail dans notre deuxième partie d'émission. José, vous aviez encore un élément
à apporter. Ce que je voulais dire, c'est que notre structure associative est assez diverse, puisqu'il y a des poids lourds, des grandes associations. Nadine en a cité certaines, mais il y a aussi des petites associations, qui représentent un tel pays d'Afrique, ou etc. Donc, on a ce mélange qui est très intéressant d'associations différentes. Le seul problème, c'est que, et Nadine évoquait les jeunes, c'est que la façon que nous avons et que nous avions de travailler est pas forcément en résonance. Et donc, c'est quelque chose que l'on rencontre partout, dans tous les mouvements associatifs. Et j'ai rencontré là ce week-end une jeune femme qui venait d'Afrique du Sud et qui nous disait aussi son problème, c'est de rajeunir son fonctionnement.
Ah oui.
C'est-à-dire que on a tendance à voir tout ça à notre façon, alors que les choses ont un petit peu changé et que les jeunes sont d'une générosité incroyable. Donc il faut arriver à trouver la façon et peut-être leur donner davantage la main.
Ça vous demanderait une nouvelle organisation?
Non, pas forcément, c'est-à-dire une adaptation à ce qu'ils ont envie de faire plutôt que ce qu'on leur impose des choses.
Et par exemple, voilà,
leur laisser la place.
Leur laisser la place,
voilà, admettons là,
des choses nouvelles.
Voilà, des jeunes qui organisent, ben, admettons le plugin, ils le font de A à Z. Bon, on les aide si besoin, mais c'est eux qui le prennent en charge. Oui. Et aussi, on en parlera dans le programme, il y a eu des petites frictions avec une partie des membres de l'AMTMSI parce que, bon, les termes anglais et tout, ça plaît moins, mais aujourd'hui, on est d'abord, on vit en Europe et tout est fait pratiquement en anglais. Donc, il faut savoir s'adapter aussi.
C'est,
et puis
c'est un peu ce que José disait, être en résonance.
Voilà.
En résonance aussi du langage.
Voilà, puis grâce aussi à des nouveaux partenariats, je pense en particulier au partenariat que nous avons avec le Programme Alimentaire Mondial. Mmh. On est la seule association française à avoir, avec la direction française du Programme Alimentaire Mondial, un partenariat. Où, voilà, en 2017, on avait fait une opération tirelire qui avait bien fonctionné, puisqu'on avait permis de servir 7500 repas de cantine au Soudan, un pays qui était quand même en guerre. Et on a continué à avoir ce partenariat. Et tout dernièrement, ben, la semaine dernière, il y a un membre du Programme Alimentaire Mondial qui est venu avec nous dans un collège à Pignan, pour parler du gaspillage alimentaire et comment ce qu'on fait ici a une résonance dans les pays ailleurs.
C'est voilà, ça, donc c'est toujours être sur le terrain, dans les écoles. Ça se passe pas uniquement au boulevard Louis Blanc.
Je pense qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut aller dans les lycées, dans les collèges. Il faut parler. Et je vais en profiter pour dire merci, je ne sais pas si elle écoutera, mais on ne sait pas. C'est Serena Benassu qui nous a fait le communiqué de presse. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça au hasard d'une conversation et qui nous a donné beaucoup de temps pour nous faire quelque chose, je pense, qui est professionnel.
Nous allons justement tout de suite y revenir sur cette journée du 30 mars. Mais avant tout, Nadine, vous nous avez... promis, vous nous avez apporté le choix musical de cette émission.
Voilà, ben, on va passer un morceau des Costards. C'est une chorale polyphonique d'hommes, de voix d'hommes. Et c'est vraiment très professionnel. Et le morceau que l'on va écouter, c'est Joca la Rossa. Je ne sais pas si je prononce bien, si Roca, c'est peut-être Roca, qu'il faudrait peut-être. Roca, je ne sais pas. Mais enfin, bon, l'important, c'est le contenu du disque.
Exactement, on écoute les Costards.
Iosca, 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 salta l'amore finché la dura. Oh.
sur FM+, l'Écostar, un cœur d'homme que nous a proposé Nadine Nuetanouin, qui est présidente de la Maison internationale des tiers-mondes et des solidarités internationales, pour laquelle nous avons évoqué l'histoire avec Guy Guyot, qui était présent il y a 30 ans dans cette maison, et même quelques années avant d'ailleurs, mais aussi avec José Forneron, qui en est aujourd'hui le trésorier. Alors Nadine, voilà, vous avez organisé une journée, alors une journée qui commence à 16h.
Voilà,
On commence en fin d'après-midi,
déjà avec l'inauguration officielle qui se passera à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, c'est au bout de l'esplanade à Montpellier, en présence des élus. Je l'espère, enfin j'en suis pratiquement sûre. Et bon, on fera un rapide petit rappel de ce qu'est la Maison des Tiers-Mondes hier et aujourd'hui. Et après, il y aura le lancement de la course plugging.
Une course plugging. Qu'est-ce que c'est plugging?
ça vient du suédois. Et ça veut dire ramasser. Voilà, alors donc c'est une invention suédoise, disons de...
Les Québécois diraient comment, les Québécois?
Eh ben, je sais pas,
parce que... Peut-être pareil.
C'est courir utile.
Ah, oui,
alors ça date de 2016 uniquement, mais on parlait tout à l'heure de nos petits camarades de villes comme Évry ou Nantes. Oui. Eux, on en fait déjà en 2013. Donc le concept a été inventé sous ce nom-là, mais... Pour le moment, on n'a pas de traduction, mais ça viendra sûrement.
Ça viendra pour les Québécois sûrement. Alors, donc voilà, on commence par ce plugging solidaire, utile.
Alors, ça sera accompagné, le lancement sera accompagné, le lancement de la course par la fanfare du groupe Foufouta, qu'on écoutera tout à l'heure.
Voilà, tout à l'heure, à la fin de cette émission.
Et le trajet fait que, de la Maison des Relations Internationales, on regagnera... l'espace Jacques Ier d'Aragon dans les facs Richter en passant le long du Lez, etc. On espère que ce sera pas trop propre tout au long du chemin pour qu'on puisse avoir des gagnants. Voilà, puisque l'idée c'est que celui qui gagnera, ce sera celui ceux qui auront été les plus vite et avec le plus de déchets ramassés, puisqu'on fera une pesée à l'arrivée.
Voilà. José, vous y participerez aussi?
Je regarderai. Mais c'est pour préciser, parce qu'on n'a peut-être pas dit tout à fait ça. Donc, les coureurs, donc c'est courir et ramasser. Donc, oui. C'est, disons, soigner son corps et soigner sa terre.
Ah, hein, oui.
Voilà. Et donc, on confiera aux personnes. En principe, ce sera des équipes de deux, avec des gants. Pour pouvoir ramasser sans se salir.
Et un sac, à
l'arrivée, voilà. Et la course fait à peu près 5
km. 5 km. Et donc l'arrivée à la maison, à l'espace Jacques Ier d'Aragon. Guy.
Oui, alors cette opération-là, bien sûr, c'est une opération par rapport à notre environnement, ici, maintenant. Mais ce que nous avons voulu mettre en évidence, c'était que ce problème-là se pose au niveau de la planète tout entière. Avec le lancement, grâce aux évolutions technologiques, du plastique d'une manière générale. Avec le problème, c'est que ce lancement-là, cette mise sur le marché, ça a été, à partir du principe, cela est jeté, ne vous en faites pas, les gobelets, les pailles, etc. C'est pas la peine de vous embêter à récupérer. Moyennant quoi, aujourd'hui, on a pratiquement 9 milliards de tonnes de plastique qui sont sur la planète, qu'il n'y en a que 20% qui est recyclé ou calciné. Hein. Et donc, le reste, ça montre que c'est l'image, c'est le continent supplémentaire. Il y a eu un certain nombre de reportages au niveau de la télé qui montrent les tonnes et les tonnes de plastique qui envahissent les océans aujourd'hui.
Et ça, c'est un
problème vraiment très, très grave.
Autant que le
changement climatique et le réchauffement de la planète.
Bien sûr, c'est tout un ensemble. Les gobelets en plastique, maintenant, sont interdits.
Il y a encore le stock qui est à récupérer.
Il y a du travail.
Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
Alors donc, on pourra récupérer, commencer à récupérer tous ces plastiques, voilà, ce 30 mars.
Ou les mégots de cigarettes, ou tout ce qui traîne dans une ville, tout ce que les gens lancent comme ça.
Les canettes.
Voilà, bon, c'est sûr que c'est aussi pour lancer un petit message de dire qu'on peut tous faire quelque chose. Ouais. Bon. Ne pas mettre ces ordures pour les autres, ce serait quand même bien. Ce serait une des premières choses à faire. Et en fait, c'est du civisme. Voilà.
Alors après la course, après voilà, avoir nettoyé les rives, on s'amuse.
On va faire des animations, on va faire un lâcher de ballon, si je reçois à temps l'autorisation de la préfecture, j'espère. Et on va le faire de la passerelle Baron de Caravette. C'est sur le Lez, à peu près au niveau de l'hôtel des régions, un petit peu plus loin. C'est vers la place.
Mais ce sont des ballons biodégradables.
Voilà, bien sûr, on a choisi
ils
également.
Ils vont pas s'ajouter au plastique.
Les ballons biodégradables.
Et pas gonflé avec des gaz à effet de serre.
C'est avec de l'hélium, de toute façon, on est obligé. Hein. Sans ça, ils ne s'envolent pas. Voilà.
Alors, ensuite, je vois des coureurs White Party.
Alors, une White
c'est
Party,
encore une
qu'est-ce que c'est que
voilà.
ça Qu'est-ce que c'est Ça existe beaucoup à Paris, ça ouais. existe également à Toulouse. La White Party, en fait, c'est un signe de ralliement, c'est-à-dire tout le monde vient avec un vêtement blanc ou porte un peu de blanc. Ça peut être un foulard, ça peut être
pas forcément d'avoir
chapeau.
La combinaison intégrale.
Non, mais c'est pas une obligation, on n'est pas...
Parce qu'on n'est pas encore trop en milieu radioactif.
Voilà, tout le monde peut avoir un petit ruban, quelque chose, ouais. une petite... un petit rappel de ce qu'est blanc. Tous en blanc, en fait, c'est pour les 30 ans, on sera tous en blanc. Pourquoi le blanc ? Parce que c'est la tolérance, c'est la paix. C'est un signe fort. Et ça n'a rien à voir, c'est pas White Party, P-A-R-T-I, ce qui serait grave. C'est White Party, P-A-R-T-Y. C'est-à-dire une journée blanche ou une séance blanche.
Voilà.
Et les jeunes nous ont proposé cette idée que je trouve très intéressante, c'est de photographier les gens habillés en blanc. Et donc, si vous connaissez l'espace Jacques Coeur, devant il y a une esplanade avec des statues, ça peut être l'occasion de photos tout à fait intéressantes. Et donc, on a des jeunes qui ont pris ça en charge. On évoquait leur présence tout à l'heure. Ouais. Ils vont être là pour photographier les personnes, seules ou en couple, etc. Ça risque d'être un moment intéressant.
Ça sera avec le club photo de Business School de Montpellier, voilà, parce qu'il y a des clubs de toutes sortes dans les chez les étudiants maintenant, et ils montent même des associations humanitaires, ils ont leur propre association, et ça c'est réconfortant de voir que la jeunesse se mobilise.
Oui, bien sûr.
Voilà, on n'en parle peut-être pas assez, parce qu'on a vite fait de parler de ce qui ne va pas par rapport à la jeunesse, par rapport à ce qu'ils font qui n'est pas toujours bienvenu. Mais il y en a tellement d'autres qui font des choses intéressantes. Peut-être pas avec notre schéma à nous. C'est-à-dire qu'ils font peut-être du plus ponctuel. Un événement, ça les intéresse. Faire des ateliers sur des idées et tout, mais venir tout le temps, c'est peut-être pas, c'est pas le schéma qui convient, à mon avis. Voilà, mais c'est très intéressant d'avoir ces jeunes qui se mobilisent. Et on est un petit groupe, là. Moi, je suis avec eux, je les soutiens. Et tout de suite, je leur ai dit, vous me tutoyez, on est tous... On ne va pas mettre de barrière, tout le monde se tutoie.
On tutoie la présidente.
Voilà, c'est pas assez.
Alors, donc, tout semblant pour les 30 ans à l'espace Jacques Ier d'Aragon. Et tout semblant, on garde notre tenue pour danser.
Ah ben on danse ou on danse pas, on n'est pas obligé.
Avec les groupes qui suivent.
Y aura eu auparavant quand même un petit espace où on pourra manger. Quand même.
Voilà, il y a un buffet.
On n'oublie pas de
un buffet des 5 continents, logiquement.
Oui, c'est ça.
Puis un beau gâteau d'anniversaire aussi. Voilà, il fallait marquer le
Donc
coup.
Donc tout ça à l'espace Jacques Ier d'Aragon.
Jacques Ier d'Aragon, oui, mais c'est au milieu des facs de Richter, en fait.
Oui, là aussi, un endroit stratégique.
Voilà, je pense que tout le monde trouvera quand même. En plus, il y a des trams, il y a deux lignes de trams, la 1 et la 4 qui arrivent en face. Donc c'est quand même, c'est pas isolé. C'est pas isolé.
Alors, après la buvette, ou pendant la buvette, les costards...
Ça sera à partir de
20h30,
la musique.
À partir de 20h30, d'accord. On patiente. Et pour tout cela, il y a aussi des bénéficiaires.
Alors, pour ces 30 ans, on a pensé faire une action humanitaire. Et en fait, en septembre dernier, était venu à notre fête Chapeau les bénévoles, un groupe qui s'appelle Imidiwen. C'est un groupe de musique qui allie à la fois de la musique européenne et de la musique malienne. Et les musiciens touaregs de ce groupe, avec qui j'avais discuté, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Ils disaient, nous, on ne voit plus personne. Les associations ne viennent plus parce qu'ils n'ont plus les autorisations par leur pays. L'État ne vient même plus non plus. Ils sont à 2000 km de Bamako. Ils ont été attaqués plusieurs fois par les djihadistes. Donc, ils sont vraiment dans des situations qui sont préoccupantes. Et ils m'ont dit, ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'on avait réussi à garder en bordure de village des puits, mais c'est pour les nomades, pour qu'ils puissent amener leurs enfants à l'école. C'est-à-dire, ils étaient semi-sédentarisés en bordure des villages. Et les puits sont contaminés par les animaux, parce que voir des puits au Mali, dans le désert, là, c'est pas couvert, il n'y a rien. Donc, et puis l'urine des animaux, et les enfants qui boivent cette eau, tombaient tous malades. Et donc, ils ont dit, on aimerait tant refaire ces puits pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Et donc... j'en ai parlé, moi, au groupe de musiciens qui ont été tous d'accord pour dire on passera un chapeau, ce sera pour les puits.
Donc les musiciens ont joué gratuitement.
Voilà, ils jouent gratuitement pour au bénéfice de ces villageois. Et en plus, on a lancé un financement participatif sur la plateforme Litchi. Voilà. Et le titre du financement, c'est « De l'eau potable pour les enfants de l'Adrar des Iforas au Mali du Nord ». Voilà. On peut mettre à partir de 10 euros. Il nous faut 3000 euros. C'est jusqu'à fin avril. Et il faudrait vraiment que tout le monde ait pitié un petit peu de ces enfants qui, bien sûr, on ne les voit pas. Ils ne sont pas sous nos yeux. Mais malheureusement, ils n'ont pas de chance parce qu'en plus, dans leurs écoles, m'a-t-on dit, la première chose qu'ont fait les islamistes, c'est de brûler les livres. Donc, ils n'ont plus de livres, donc plus d'école. Et franchement, en plus, être malade, c'est inacceptable. Alors, si vous avez envie de faire une bonne action, eh bien, c'est de mettre ne serait-ce que 10 euros pour aider à creuser ces puits.
À creuser ces puits. De l'eau potable pour le Mali, c'est le nom de... cette pétition, de ce financement, de ce projet solidaire sur Litchi. Alors finalement, dans cette journée du 30 mars, qui commence à 16h à l'esplanade de Nelson Mandela, à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, on a résumé toutes les actions de la...
Tout à fait.
Toutes les actions de la Maison des Solidarités.
Voilà, le climat.
L'écologie, le climat.
La jeunesse.
La jeunesse. La solidarité internationale.
Tout à fait.
C'est pas mal comme emblème, n'est-ce pas?
Tout à fait, le confirme. Et ça a été illustré, comme le disait José tout à l'heure, par les différents thèmes de nos quinzaines. Aussi bien sur l'accueil des migrants que sur le problème des femmes et des enfants dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays d'ici. L'aspect agriculture paysanne, où ça fait de nombreuses années déjà, maintenant le bio, on commence à en parler de plus en plus, mais enfin dans les années 70, c'était encore très 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 minoritaire.
Avec René
et là,
Dumont,
on a eu la chance, tout à fait, là on a eu la chance que ça ait été repris ensuite par les collectivités territoriales, avec une prise de conscience progressive des citoyens et donc des électeurs. Et là, je pense qu'il est important que, en tant que à la fois électeur, citoyen, mais aussi acteur du devenir de la planète, qu'on soit tous conscients qu'il n'y a plus de temps à attendre. Si jamais il y en a eu, mais voilà. Mmh. Et de plus en plus, ça doit se traduire par des actions concrètes au niveau de la vie quotidienne, ici et maintenant, et y compris en solidarité avec les autres pays de notre planète Terre.
Et voilà, et pour commencer, on vous retrouve... le 30 mars à 16h à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela. Nous allons terminer tout à l'heure l'émission, il nous reste encore quelques minutes avec la fanfare
Foufouta,
mais avant tout Guy, je crois que vous avez des annonces, peut-être José, Guy, oui. Des annonces à nous faire pour... on reprend le quotidien
tout à fait.
On fête ses 30 ans, mais la vie continue.
Après chaque émission, donc, c'est Madeleine Guyot qui rappelait le calendrier, donc je me charge de cette mission importante. Donc pour le dimanche 31 mars, à 10h au Jardin du Pérou, un rassemblement « Mobilisons-nous pour Gaza » organisé par la FPS 34, membre de la Maison des Tiers-Mondes. Une exposition du 22 mars au 19 avril organisée par le Secours catholique et l'équipe du Café Solidaire au comptoir des Compagnons de Maguelone, cathédrale de Maguelone, accès voiture par Palavas. Et encore jusqu'au 27 avril, une exposition de photos réfugiées de John Wink, maison de l'image documentaire 17 rue Lacan à 7, organisée par Médecins Sans Frontières. Des broderies d'espoir pour un enfant le vendredi 29 et le samedi 30 mars de 9h à 18h, foyer des campagnes à Poussan. Il y a ensuite à rappeler le vendredi 29 mars, cinéma diagonal organisé par Œcuménie Cité et Profil des chrétiens et cultures de Fortuna de Gemina Rouen. C'est la vie d'une jeune Éthiopienne réfugiée en Suisse. Et le vendredi 29 mars, le même jour, à 19h, à la Carmagnole, une soirée de solidarité avec le peuple grec sur le thème « Où en est la Grèce aujourd'hui ?». Enfin, à l'occasion, à l'invitation de nos partenaires, lundi 1er avril à la Halle Tropisme, 121 rue Foncouverte, une rencontre avec Edgard Morin et Patrick Vivevray, un dialogue des possibles en résonance avec les actions portées collectivement dans la région, alors par des organisations comme la CAVAL, la CAGET, Enercop, la Graine, l'Altropisme, etc. Le mercredi 3 avril à 18h30, salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, après le référendum sur la réforme constitutionnelle Où va Cuba. Et le jeudi 4 avril de 9h à 17h30, journée des innovations pour une alimentation durable, inscription avant le 29 mars, organisée par Supagro Campus de Place Pierre Viala. Et enfin, pour terminer, le vendredi 5 avril au Centre Rabelais, pour l'anniversaire de ses 60 ans, l'association Enfants du Mékong, membre de la Maison des Tiers-Mondes, présente le film Grandir de Gilles Coulon, avec musique de Yaël Naïm et de David Donatia.
Merci, grand merci Guy Guillot, merci à vous José Forneron de la Maison Internationale.
La Maison des Tiers-Mondes.
La Maison des Tiers-Mondes, et merci à vous Nadine Nuettanoin, présidente de cette maison, et rendez-vous pour le 30 mars, pour les 30 ans.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir parlé de Fortuna, je suis à découvrir.